Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité de ce mardi 7 septembre.
La Corée du Sud réussit son test sous-marin d'un MSBS depuis un submersible. Selon Choi Jong-gun, l'éventuel redémarrage d'un réacteur nucléaire nord-coréen ne viole pas les accords intercoréens. Covid-19, la Corée du Sud flirte avec les 60% de primo-vaccinés. Enfin, Hyundai Motor veut atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2040.
L'armée sud-coréenne semble avoir effectué avec succès un test sous-marin de missile Mersol balistique stratégique, le MSBS de conception nationale, depuis un submersible. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui. En croire une source de l'armée, celle-ci a procédé à ce premier essai du genre mercredi dernier à huis clos depuis le sous-marin de classe Tosan Anchang-ho. Il produira le missile en masse après un ou deux nouveaux tests identiques avant de le déployer sur ce premier submersible 3000 tonnes de sa marine, doté de 6 rampes verticales de lancement froid de cet engin balistique. Le nom de celui-ci s'appellerait Hyunmoo 4-4. Pour rappel, le MSPS est surnommé le changeur de donne en raison de ses capacités submersibles et du caractère discret de son système de lancement sous l'eau. Avec le succès du dernier essai, la Corée du Sud devient le 8e pays détenteur d'un MSPS au monde. Son armée avait déjà achevé ses tests d'éjection terrestre comme depuis une barge. Cela dit, le ministère de la Défense n'a pas encore confirmé officiellement le développement de cet engin.
Dans l'actualité internationale, le premier vice-ministre des Affaires étrangères a été interrogé aujourd'hui par la Commission de la diplomatie et de la réunification du Parlement. Sans surprise, ses députés membres ont cherché à savoir ce qu'ils pensent du récent rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, selon lequel la Corée du Nord semble avoir remis en service son réacteur de 5 MW du complexe nucléaire de Yongbyon. Choi Jong-gun a alors estimé que l'éventuel redémarrage de ce réacteur produisant du plutonium ne constituait cependant pas une violation des accords intercoréens. Il a détaillé que le pays communiste continuait à respecter les mesures visibles prévues par les deux déclarations majeures de 2018, signées à l'issue des sommets entre Moon Jae-in et Kim Jong-un, respectivement en avril à Panmunjom et en septembre à Pyongyang. Il s'agit notamment de détruire ces sites d'essais nucléaires et balistiques. Questionné sur la possibilité que la Corée du Sud rejoigne elle aussi l'agence Five Eyes, regroupant les services de renseignement des cinq pays que sont les États-Unis, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, Choi a martelé que l'administration Moon ne l'avait jamais étudié officiellement. Le Congrès américain, lui, aurait voulu lancer une discussion en ce sens.
Dans ce contexte, le négociateur nucléaire sud-coréen Noh Kyu-tok et ses homologues américains et japonais se retrouveront le 14 septembre à Tokyo, objet de leur nouvelle rencontre, une première en 3 mois, échangée sur les moyens de renouer le dialogue avec la Corée du Nord. Ils se concentreront plus précisément sur la possible coopération humanitaire et l'engagement des 3 pays envers le royaume ermite. Noh en profitera pour s'entretenir aussi séparément avec l'américain Song Kim et le japonais Takehiro Funakoshi. Et vous vous en souvenez peut-être, des responsables gouvernementaux sud-coréens et américains ont même discuté le mois dernier à 2 reprises des domaines dans lesquels les 2 alliés pourront accorder leurs aides humanitaires. Ils concernent notamment la santé, la lutte contre les maladies contagieuses, l'eau potable ou encore l'hygiène publique.
Le ministre chinois des Affaires étrangères fera un nouveau déplacement en Corée du Sud en début de semaine prochaine. D'après le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, un tête-à-tête avec Séoul entre son patron Jang Eun-young et Wang Yi est prévu le 15 septembre. Leur dernière rencontre a eu lieu en avril à Xiamen en Chine. Il s'agira du 2e voyage du chef de la diplomatie chinoise en 9 mois dans la capitale sud-coréenne. Lors de nouvel entretien qui se tient à l'approche du 30e anniversaire des relations diplomatiques Séoul-Pékin, les deux hommes devraient échanger non seulement sur les projets de coopération entre leurs pays, mais aussi sur les dossiers régionaux et internationaux, les Jeux Olympiques d'hiver qui se tiendront à Pékin en février prochain et la visite du président chinois en Corée du Sud pourraient aussi s'inviter dans leurs discussions.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Sur le plan de l'épidémie de coronavirus, hier lundi, un total de 740 000 personnes ont reçu une première dose de vaccin anti-Covid et 632 000 individus la deuxième injection. Un nombre record de vaccinations depuis le lancement de la campagne en février dernier. Environ 60% de la population sont désormais primo-vaccinés et 36% complètement vaccinés. Le gouvernement reste confiant quant à l'objectif des 70% de primo-vaccinés à atteindre avant Chuseok, la fête de moisson qui tombe le 21 septembre, expliquant que quelque 6 800 000 doses de sérum Pfizer et Moderna seront livrées en Corée du Sud d'ici demain. Le gouvernement a par ailleurs rendu public les résultats d'un sixième sondage sur le coronavirus. Selon cette enquête réalisée auprès de 1 000 personnes de plus de 18 ans, plus de 7 répondants sur 10 se sont prononcés pour le passage à une cohabitation avec le virus. Le problème, c'est qu'un rebond de l'épidémie est constaté dans la région de Séoul. Ces dernières 24 heures, 1597 nouveaux cas de Covid ont été répertoriés, dont 66% dans la capitale et sa couronne. Le centre de gestion de crise a indiqué que la semaine dernière, le nombre moyen de contamination quotidienne avait progressé de 3,9 points en une semaine. Le second vice-ministre de la Santé a une nouvelle fois appelé les citoyens à respecter les gestes barrières. Selon qu'en douter, les 4 prochaines semaines seront décisives pour combattre le coronavirus. Dans ce contexte, le centre envisage de resserrer l'étau sanitaire, notamment sur les salons de coiffure, à partir de lundi prochain.
En politique intérieure, l'Assemblée nationale a convoqué d'urgence hier sa commission permanente de la législation et des affaires juridiques, avec à l'ordre du jour une nouvelle allégation selon laquelle Yoon Suk-yeol a incité le Parti du Futur Unifié, la première force de l'opposition rebaptisée Parti du Pouvoir du Peuple, à porter plainte contre plusieurs personnalités proches de l'administration de Moon Jae-in lorsqu'il était encore au poste de procureur général, c'était avant les législatives du 15 avril 2020. Cet ancien patron du parquet a quitté ses fonctions après un bras de fer avec le gouvernement de Moon, qui l'avait pourtant nommé. Il est maintenant l'un des candidats du PPP à la présidentielle de mars prochain et les Sud-Coréens le placent en tête de leurs intentions de vote parmi les prétendants de l'opposition. Les débats d'hier ont donc été houleux. Le Minju, le parti au pouvoir, et le PPP se sont violemment affrontés. Le premier a réclamé l'éclaircissement du soupçon et le second a dénoncé une attaque politicienne. Le ministre de la Justice, qui s'est présenté devant la commission, a affirmé qu'il s'agissait d'une affaire susceptible de porter atteinte à la neutralité politique et à l'honneur du parquet. Park Geum-hye a d'emblée estimé qu'une enquête rapide serait nécessaire pour faire la lumière. Pendant ce temps, le parquet général a poursuivi ses investigations et l'affaire pourra même être traduite devant l'agence chargée des enquêtes sur les affaires de corruption et les crimes de hauts fonctionnaires, la CIO, puisqu'un groupe civique vient de déposer sa plainte auprès de cette institution contre Yoon et trois de ses proches qui seraient impliqués. Cela dit, tous les intéressés ont nié en bloc les soupçons pesant sur eux.
Au chapitre économie, grâce à un excédent commercial record dans le secteur des transports, la Corée du Sud conserve une balance courante positive pour le 15e mois consécutif, à savoir depuis mai 2020. C'est ce qu'indiquent les données provisoires publiées aujourd'hui par la Banque de Corée. Le pays a connu en juillet un surplus de 8,2 milliards de dollars. Cela représente aussi une hausse d'1,2 milliard de dollars en glissement annuel. Du côté de la balance commerciale, elle a vu son excédent diminué d'1,3 milliard de dollars sur un an pour atteindre 5,7 milliards de dollars. Les exportations et les importations ont bondi respectivement de 26% et de 35% pour s'élever à 54,3 milliards et à 48,6 milliards de dollars. En revanche, la balance des services a accusé un déficit de 80 millions de dollars durant le même mois, un chiffre toutefois en nette baisse d'1,2 milliard sur un an, dopé par la balance des services de transport qui a enregistré un excédent historique d'1,6 milliard de dollars contre 10 millions en juillet 2020.
Hyundai Motor s'est engagé à son tour sur la neutralité carbone d'ici 2045. Le premier constructeur automobile de Corée du Sud a fait cette annonce hier au salon IAA Mobility qui s'est ouvert à Munich en Allemagne. Afin de concrétiser cette promesse, le groupe a décidé de réduire de 75% par rapport à 2019 ses émissions à l'horizon 2040 et d'introduire la technologie dite CCUS, c'est-à-dire captage, utilisation et stockage du CO2. De même, il accélérera l'électrification de ses véhicules. Le conglomérat projette également de vendre uniquement des voitures électriques sur le marché européen, et ce à compter de 2035, puis de faire de même dans les autres marchés principaux, étape par étape. Objectif affiché, porter le taux d'électrification de ses automobiles à écouler à 30% d'ici 2030 et à 80% jusqu'en 2040. Autre mesure annoncée, il s'agit d'augmenter les modèles de véhicules récréatifs, électriques et à hydrogène. C'est la fin de cette édition présentée par Yoon Hae-jung et Thierry Laplanche. Merci de votre fidélité et belle soirée à tous.